a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Présidentielle américaine 2016, vers un choc des dynasties Clinton et Bush, la déclaration de Jeb Bush à Miami, qui officialise sa candidature pour le compte du Parti républicain, a mis de l'épice à la sauce. Il y a désormais 19 candidats déclarés dans la course à la Maison-Blanche.
L'Amérique et vous, Jean-Roger Billon.
Jeb Bush, frère et fils des deux derniers présidents républicains des États-Unis, a officialisé le 15 juin sa candidature aux primaires présidentielles de 2016, affirmant que les Américains méritaient mieux qu'un président démocrate après 8 années de Barack Obama. Timothée de Nangmaï.
À l'instar de son père et de son frère, Jeb veut lui aussi accéder à la Maison-Blanche. Mais il ne va pas mettre l'accent sur son image d'héritier de la dynastie Bush, mais plutôt sur son expérience de gouverneur. S'adressant à une foule enthousiaste de partisans, M. Bush a déclaré que les États-Unis avaient emprunté une très mauvaise voie et il a blâmé les démocrates pour le renforcement acharné du pouvoir réglementaire et la lente croissance de l'économie américaine. Il a assuré pouvoir faire mieux et dit l'avoir déjà fait en tant que gouverneur.
We made Florida number one in job creation.
Nous avons fait de la Floride le premier État pour la création d'emplois. Toujours est-il que le réseau de donateurs tissé depuis des décennies par sa famille lui a permis de collecter des millions de dollars pour sa campagne avant même qu'il n'annonce son intérêt dans la présidence américaine.
I will take nothing and no one for granted.
Je ne prendrai rien ni personne pour acquis. Je ferai campagne avec mon cœur. Je ferai campagne pour gagner. En mettant en exergue son passé de gouverneur, Jeb Bush entend ainsi, selon l'AFP, associer certains de ses nombreux rivaux qui siègent au Sénat au dysfonctionnement politique qui paralyse la capitale fédérale. Nous avons besoin d'un président prêt à perturber cette culture washingtonienne, a-t-il dit. Jeb Bush a adopté des positions moins conservatrices que la plupart de ses rivaux républicains sur l'immigration et l'éducation, aux grandes dames des électeurs qui, d'habitude, votent dans les premières consultations électorales de son parti dans l'Iowa et au New Hampshire. Il partait grand favori au début, mais il est pratiquement ex aequo avec le sénateur de Floride, Marco Rubio, et le gouverneur du Wisconsin, Scott Walker, qui n'a pas encore officiellement annoncé sa candidature.
Au même moment, Hillary Clinton, femme de Bill, le 42e président américain, a officiellement démarré sa campagne côté démocrate. Bush versus Clinton, la même affiche qu'en 1992. Seuls les prénoms ont changé. Michel Joseph.
Qui remplacera Barack Obama à la présidence des États-Unis? Peut-être une femme, pour la première fois, si l'on en croit les sondages qui plébiscitent Hillary Clinton. Thomas Snegaroff, spécialiste des États-Unis, auteur de Bill et Hillary Clinton, un mariage d'amour et de pouvoir, nous parle de l'odyssée d'Hillary Clinton vers la Maison-Blanche.
Vous savez, il n'y a que George Bush qui a réalisé ça, hein, le George Bush père qui avait succédé à deux mandats de Ronald Reagan. Donc c'est très difficile. En fait, l'enjeu, c'est effectivement d'apparaître à la fois comme un élément de continuité, parce qu'il y a des bons résultats économiques, mais de rupture, parce que voilà, les gens veulent du sang neuf. Et la rupture, ça va être difficile, c'est toujours pareil. Hein. C'est à la fois la continuité et la rupture en France. On a connu ça un petit peu quand Nicolas Sarkozy a succédé à Jacques Chirac. C'est-à-dire qu'il fallait être à la fois dans la continuité, hein, parce que c'était une tradition, mais aussi montrer un autre visage politique. Alors là, le fait qu'Hillary Clinton ait quitté l'administration Obama après le premier mandat, lui permet tout de même de ne pas être trop collé à l'image de l'administration précédente. Ça fait quand même, ça fera 4 ans qu'elle n'aura pas été dans l'administration. Donc voilà, c'est une chance pour elle peut-être de montrer qu'elle est un peu différente. Et voilà à peu près à mon avis ce qu'elle peut dire aux Américains.
Forte et engagée, Hillary Clinton n'a cessé ces dernières années de s'investir dans les causes qui lui tiennent à cœur. L'égalité, le droit des femmes, entre autres. Toutefois, une bonne frange d'Américains reste déçue de certains de ses choix. Le fait qu'elle continue à travailler avec sa boîte mail personnelle, par exemple. Sa santé et son âge seraient aussi des critères avancés par ses concurrents. Si Hillary était élue, elle serait la personne la plus âgée à accéder à la présidence des États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais avant cela, le chemin de la Maison-Blanche est pavé d'obstacles, dont d'autres sérieux candidats du camp républicain.
Jeb Bush contre Hillary Clinton, le scénario qui emballait Washington se précise. Au grand bonheur de la presse américaine, la pression est montée et la campagne s'anime. Serge Bagnongeng, analyste politique chargé de cours à l'Université d'Ottawa, explique cette ébullition.
Il y a un phénomène qui est contrastant, c'est-à-dire que d'un côté, il y a un pléthore de candidats républicains et de l'autre côté, au niveau démocrate, il n'y a pas tant pas de candidats, il faut forcément supplier les gens pour être candidats. Mais en même temps, si on a une leçon qu'on a prise de l'élection aux États-Unis, c'est qu'il faut se méfier au début. Rappelez-vous que de manière tonitruante, celle qui était alors sénatrice, Hillary Clinton avait été déjà vu comme la candidate démocrate jusqu'à ce qu'elle se fasse croiser au poteau par le jeune sénateur lui aussi de l'Illinois, Barack Obama. Alors oui, c'est sûr que l'Amérique est un peu en train de justement de se mouvoir par rapport à ce nouvel affrontement entre d'ailleurs sa deux familles amies, les Clinton et les Bush. Vous savez certainement qu'il y a eu une relation très très poussée entre le père Bush Senior, le 41e président, et puis Bill Clinton qui l'a défait, le 42e. Ils ont vraiment entretenu des relations depuis sa défaite jusqu'à très présent. D'ailleurs, le 43e président George Bush disait qu'ils appellent Bill Clinton leur frère de l'autre mère. Donc oui, c'est sûr que c'est un peu excitant pour les gens, mais pour le moment, c'est une élection qui commence à peine. Il y a beaucoup de surprises. Il faut encore être un peu patient, quoi, avant de tomber aux conclusions.
Alors, Mme Clinton caracolait seule en tête des sondages jusque-là. Jeb Bush pourrait-il relancer l'appareil républicain après le règne d'Obama?
Oui, d'abord, l'appareil républicain, comme vous l'appelez, c'est un appareil très complet. Il faut certainement que, je pense que vous savez que le Parti républicain est en fait une coalition. Ce n'est pas un parti en tant que tel, c'est une coalition, comme aussi le Parti démocrate, mais encore plus que le Parti démocrate. C'est-à-dire qu'il y a un groupe de personnes plus ou moins, ou un groupe d'intérêts plus ou moins hétéroclite entre plusieurs centres d'opinion et d'idéologie. Donc, déjà, il faudrait voir comment est-ce que ça va se passer pour les primaires. Mais c'est sûr qu'avec Jeb Bush comme candidat, ça va certainement focaliser à la fois l'attention, ce qui peut être positif pour lui, ce qui aussi peut attirer des critiques. Donc oui, c'est sûr que l'intérêt en tant que tel pour l'élection est absolument relancé avec l'officialisation qui était en fait aussi un secret révolutionnel de cette candidature. Cet intérêt a été vraiment relancé. Maintenant, est-ce qu'il faut aller vite au diagnostic? Et surtout, je vous invite à vous mettre des pronostics à ce stade-ci, parce que des sondages à ce stade-ci, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent les faire fluctuer, il y a beaucoup d'informations qui manquent encore, et la campagne en tant qu'étienne n'a pas encore commencé.
Alors, d'un côté, la dynastie des Bush, de l'autre, celle des Clinton. La politique devient-elle une affaire de famille aux États-Unis? Quel est, selon vous, l'impact des dynasties familiales sur la politique?
Écoutez, c'est une question qu'on a toujours posée, mais il y a une réponse qui est claire. C'est que, regardez un peu, lorsque le fils d'un sportif devient un sportif, cela semble aller de soi. Lorsque le fils d'un musicien s'excelle dans la musique avec plus ou moins de succès, cela semble aller de soi. Une des choses qui arrive, c'est que les gens avec qui on interagit, les gens avec qui on est en relation, sont ceux qui nous guident ou plus orientent notre carrière. Il est carrément, on s'attend donc que si nos parents sont en politique, on s'intéresse à la politique, on prend la politique pour un centre, et puis que notre vie tourne autour de la politique. Bon, il y a les cas différents aussi là. Oui, bon, maintenant, est-ce que c'est une affaire de dynastie? Et d'abord, je ne pense pas qu'en tant que tel, parce qu'il faut rappeler que l'Amérique s'est fondée justement sur le rejet de ce qui est monarchie, dynastie, et puis cette leadership lié plus au sens qu'aux qualités individuelles. Alors oui, c'est sûr que avoir ces gens qui reviennent donne un peu l'impression de dynastie, mais il faut rappeler aux gens qu'ils seront forcément élus sur leur propre mérite. C'est vrai que si on emporte un nom comme Bush, attirer du financement ou avoir une équipe autour de soi est beaucoup plus facile que si on s'appelait, je ne sais pas moi, Johnson ou autre chose, un anonyme, ou alors quand on a été pendant très longtemps aux affaires comme première dame et puis comme sénatrice et ensuite comme secrétaire d'État, qui est la troisième personnalité au stade, comme vous le savez, au niveau politique du moins, c'est sûr qu'on a beaucoup plus d'opportunités de pouvoir battre campagne facilement, concentrer les financements et puis obtenir les appuis. Maintenant, je pense que le lecteur américain, lui, jugera les personnes à leur mérite et à leur qualité. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de face ou pas de chance. Parce que, il faut le rappeler, vraiment, l'Amérique a été fondée sur le rejet de ce genre de pratiques. C'est-à-dire que la naissance, pour donner droit aux privilèges, je ne pense pas que ce sera le cas ici. Et d'ailleurs, autant Mme Clinton que M. Bush ont un passé à défendre. Ils ont un bilan, que ce soit comme gouverneur ou que ce soit comme sénatrice et secrétaire d'État. Tous les deux ont un bilan à défendre et ce bilan-là va parler pour ou contre eux.
Il y a un noir dans la liste des républicains, le professeur Carson. Quel est son poids sur l'échiquier républicain?
Bon, il faut savoir que quand même, même le parti républicain a eu un effet, disons, plus ou moins Obama, avec de plus en plus des candidats afro-américains qui sont présentés d'abord. Bon, maintenant, il y a un adage qui marche aux États-Unis et qui est très intéressant, c'est qu'une élection, c'est comme une piscine. C'est-à-dire que s'il n'y a pas assez dedans, il ne faut pas plonger. Alors, si vous n'avez pas assez d'appui, il ne faut pas y aller. Des candidats qui sont la figuration, des candidats noirs qui sont la figuration, on en a beaucoup connu, surtout dans le Parti démocratique, jusqu'à ce que Barack Obama fasse la différence. Il est vrai qu'une des choses qui a été reprochée au Parti républicain, ce n'est pas comprendre la dynamique de changement qui a eu lieu aux États-Unis depuis un certain temps, c'est-à-dire qu'une dynamique de changement à la fois sociale très importante, notamment la capacité à parler aux électeurs latinos et puis aux électeurs afro-américains. D'ailleurs, je pense que la capacité de parler aux électeurs latinos, c'est ce qui a fait gagner George Bush fils. Et je pense que cet héritage latino pour avoir été gouverneur de la Floride est quelque chose qui est vraiment très positif pour son frère Jeb Bush. Maintenant, est-ce que les minorités pourront vraiment se faire un poids pour y aller? Je ne connais pas bien le poids du professeur Carson. On verra comment ça va évoluer. Je pense que c'est une chance quand même d'être là comme un futur. C'est une chance d'être présent et de montrer que même au Parti républicain, les candidats de couleur, les candidats, les minorités peuvent prétendre à la candidature.
Serge Bagnongen, analyste politique. L'élection présidentielle américaine est intéressante à plus d'un titre, mais malgré sa présence intensive dans les médias, son fonctionnement réel est mal connu. Retrouvons un brin de ce panorama complexe avec Kamisa Kamara du National Endowment for Democracy, une ONG aux États-Unis.
Le processus électoral est très très complexe aux États-Unis. Donc vous avez deux grands partis, donc le parti républicain et le parti démocrate. Au sein de chacun de ces partis-là, il y aura une série de candidats qui vont compétir les uns contre les autres. Donc le parti démocrate va choisir son candidat et le parti républicain va choisir son candidat. Il y a au jour d'aujourd'hui, je pense, une quinzaine de candidats, tout le parti confondu. Et donc chacun des partis devra se mettre d'accord sur le candidat qu'il va présenter aux élections de 2016.
Comment est-ce que le président qui dispose encore de tout le pouvoir, le président au pouvoir, M. Obama en l'occurrence, peut garantir l'équité de la bataille électorale alors qu'il détient l'appareil exécutif?
Alors, aux États-Unis, et d'ailleurs comme dans beaucoup de pays africains, sur papier, le pouvoir exécutif et l'organe qui organise les élections sont totalement séparés. Donc, dans la pratique aux États-Unis, en tout cas, l'organe exécutif s'occupe de l'exécutif, comme son nom l'indique, et c'est l'organisation fédérale ou la commission fédérale électorale aux États-Unis se charge de l'organisation des élections. Mais l'exécutif n'a absolument rien à voir avec l'organisation des élections en tant que telle.
Même dans son propre parti, le Parti démocrate, il n'a pas le droit de donner des préférences?
Il pourra à un moment donné donner sa préférence ou disons soutenir un candidat en particulier, mais cela se fera simplement après que le Parti démocrate aura choisi son candidat. Donc je suppose qu'il y a bien sûr des choix qui sont exprimés souterrains, mais de manière publique, le président ne pourra pas soutenir de candidats démocrates en particulier jusqu'à ce qu'il y ait les primaires, donc l'événement pendant lequel le Parti démocrate ou le Parti républicain choisira son candidat.
Alors comment les différents candidats sont financés, étant donné que souvent la justice intervient pour dire que tel candidat a reçu une manne à laquelle il n'avait pas droit légalement?
Alors le financement des partis politiques aux États-Unis est également complexe, et je dirais même aussi complexe que le système électoral. Puisque aux États-Unis, d'ailleurs je pense que c'est le seul pays au monde où on autorise ce qu'on appelle un financement des partis politiques anonymes. C'est-à-dire qu'une personne ou une compagnie X peut donner $1 million à un candidat sans pour autant décliner son identité. Donc, effectivement, il y a beaucoup de questions autour de cela, mais justement parce que le système de financement des partis politiques n'est pas très transparent aux États-Unis.
Alors, comment fonctionne le système des primaires quand les collèges électoraux des démocrates et des républicains sont convoqués? Comment sait-on que tel individu, tel citoyen est marqué républicain ou démocrate? Parce qu'il peut y avoir de la confusion.
Alors, lorsque aux États-Unis, un citoyen américain décide de se faire enregistrer dans, on appelle ça the electoral roll, donc la liste électorale ou la liste des votants, il doit signifier systématiquement le parti auquel il appartient. Donc, par exemple, si aujourd'hui je décide de je suis citoyenne américaine, je décide de m'enregistrer pour pouvoir voter aux élections de novembre, je vais marquer, selon que je suis démocrate ou républicain ou indépendant. Donc, une fois que je marque, je m'associe à un parti ou à un autre, mon vote comptera pour le parti démocrate ou celui du parti républicain.
Alors, dans ce système électoral dualiste, on peut dire, avec le parti républicain et le parti démocrate, y a-t-il une place pour les candidats indépendants?
Les candidats indépendants ont très peu de place. Il y a eu des candidats indépendants dans le passé, mais vraiment, leurs chances ne sont pas très, très élevés. Et comme vous l'avez dit, c'est un système dualiste. Donc les candidats indépendants ont le droit de se présenter, mais dans la pratique, ils n'ont quasiment aucune chance de se faire élire.
Alors, il y a des gens qui sont hyper riches et qui aspirent à devenir président dans ce pays, mais ils ne sont pas donnés gagnants dès le départ. Par exemple, le dernier candidat sur les 16 qui se sont présentés, Donald Trump, est un multimilliardaire, mais sa fortune ne l'aide pas. Dans ce processus?
Parce qu'il n'est juste pas politique. Le système électoral aux États-Unis, quand même, je dirais, comparé à beaucoup de pays africains, ceux de beaucoup de pays africains, il est extrêmement politique. Donc lorsque vous êtes un businessman ou une femme avec plein d'argent et que vous voulez vous lancer dans les élections présidentielles, tout ce que vous pouvez espérer, c'est peut-être vous faire un peu de publicité. Mais dans la pratique, si vous n'êtes pas politique, vous n'avez presque aucune chance de gagner ces élections.
Kamissa Camara, chercheur au National Endowment for Democracy, une ONG chargée de la promotion de la démocratie aux États-Unis. Aux dernières nouvelles, Chris Christie est candidat à la primaire républicaine. Le gouverneur du New Jersey a lancé sa campagne présidentielle à Livingston le 30 juin 2015. « Je suis prêt à me battre pour le peuple américain », a déclaré le charismatique gouverneur du New Jersey, républicain modéré, en annonçant sa candidature. Cela fait donc à ce jour 14 candidats républicains engagés dans la course à la Maison-Blanche.
L'Amérique et vous, juste une dernière chose.
Avant de nous quitter, on jette un coup d'œil dans la basse-cour des démocrates où on ne se presse pas pour affronter Hillary Clinton, Salwa Jafari.
Hillary Clinton, grandissime favorite de la course à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle de novembre 2016 aux États-Unis, a pour le moment seulement 3 adversaires déclarés contre elle dans le cadre des primaires démocrates. Le sénateur indépendant du Vermont, Bernie Sanders, âgé de 73 ans, se qualifie de socialiste et veut non seulement démanteler les grandes banques, mais aussi réduire l'influence des milieux d'affaires sur les élections américaines. Martin O'Malley, ancien gouverneur du Maryland, entend se positionner à 52 ans comme une alternative plus à gauche que Hillary Clinton. Sa pré-campagne s'est focalisée sur les excès de Wall Street et les injustices sociales. À 62 ans, Lincoln Chafee a d'abord été un élu républicain au Sénat avant de se présenter en candidat indépendant à l'élection du gouverneur de Rhode Island. Pour finir au Parti démocrate, en 2013, il veut extraire les États-Unis de son implication dans de coûteuses guerres à l'étranger et fait de l'éducation, les infrastructures et de la santé ses priorités. Voilà pour ceux qui sont déclarés côté démocrate. D'autres font durer le suspense. L'actuel vice-président Joe Biden, aux côtés de Barack Obama depuis leur ticket victorieux de 2008, envisagerait à 72 ans de tenter une troisième fois l'aventure des primaires démocrates après ses échecs de 1998 et 2008. Jim Webb, l'ancien sénateur de Virginie, a été le premier à lancer, dès novembre dernier, un comité exploratoire. Mais cet ancien secrétaire à la Navy du président républicain Ronald Reagan n'a toujours pas franchi le pas.
Voilà, ce sera tout pour cette édition de l'Amérique et vous, consacrée à la course à la Maison-Blanche qui prend du relief. Merci d'avoir été avec nous. Jean-Roger Billon pour vous servir. Cette émission a été réalisée par Michel Joseph. Bonsoir à tous.